Voilà, on va passer la parole tout de suite à M. Bondin. Et pas simplement, c'est un éminent sinologue. Et il a une expérience, des expériences vécues à Hong Kong à partir des années 60 jusqu'à nos jours. 70. Hong Kong fait partie de sa vie. Une partie. Donc, et c'est quelqu'un. Maintenant, il parle Hong Kong. C'est pas un titre principaliste, aussi un observateur participante particulière. Donc, voilà. Maintenant, la parole à Monsieur Bondin. Justement, c'est très complémentaire, je suppose, que ce que vient d'être dit par Monsieur Chou.
Merci, Zhang Luen. Vous m'entendez bien? Oui, ça marche, en fait. Oui. D'abord, je pense qu'il est difficile de parler après cette présentation, parce que vraiment, c'était une présentation absolument remarquable, très complète. Et donc, on se regardait tout à l'heure avec Jean-Philippe en se disant, bon, qu'est-ce qu'on va pouvoir encore dire d'intelligent après cette présentation? Donc, en fait, je crois que nous allons simplement ajouter quelques notes de bas de page, quelques compléments. Je suis d'autant plus content de parler juste après Bao Song que, en fait, nous sommes collègues à l'Université chinoise de Hong Kong. Et donc, moi, j'enseigne un semestre par an. Et d'habitude, c'est le premier semestre. Et là, pour des raisons de logement, j'ai choisi le deuxième semestre. Et je le regrette parce que je ne suis pas à Hong Kong en ce moment. Mais malheureusement ou heureusement, je pense que... au second semestre, il y aura encore des choses qui se passeront à Hong Kong. Voilà. Donc, je vais maintenant parler un peu en tant qu'historien, historien des relations entre Pékin et Hong Kong. J'ai intitulé mon papier « Un pays, deux systèmes, la dimension tragique ». Alors, c'est un thème que j'avais donné quand j'ai discuté avec Zhang Luen au tout début du mouvement. Et malheureusement, la dimension tragique, elle apparaît maintenant de façon très, très, très évidente. Mais je voudrais montrer ses racines historiques. L'histoire de Hong Kong est une histoire passionnante, c'est une histoire profondément ironique, marquée par une suite d'événements étonnants, de situations tout à fait improbables. Et pendant le siècle et demi de période coloniale, l'implantation d'une entité politique occidentale à la pointe méridionale de la Chine n'a pas toujours été facile, mais les crises se sont toujours bien terminées. Hong Kong a réussi à devenir ce qu'on a appelé la perle de l'Orient, Dongfang Zhizhou. En fait, ce qui est intéressant, c'est que selon l'expression pertinente de Nigel Cameron, c'est une perle de culture, c'est-à-dire c'est un corps étranger qui a été implanté dans l'huître chinoise et qui a produit un résultat très exceptionnel. Depuis les années 80, quand l'ombre de 1997 s'est dangereusement rapprochée du territoire, et ensuite, pendant les 22 années qui ont suivi le départ des Britanniques, l'ironie a pris une dimension tragique qui apparaît aujourd'hui aux yeux de tous. L'ironie miraculeuse s'est transformée en ironie tragique. À l'époque des débuts de Hong Kong, en fait, Hong Kong a été créé comme un refuge. Mais un refuge pour les Occidentaux, pour les commerçants britanniques qui voulaient commercer sans être sous le contrôle du pouvoir chinois, des mandarins à la fois corrompus et aussi éviter la justice chinoise qui, à l'époque, pratiquait la torture de façon tout à fait régulière. Donc, mais l'ironie, une ironie qui est de cette histoire, il y en a beaucoup, c'est que ce refuge pour les Occidentaux est devenu un refuge pour les Chinois. Et c'est devenu un refuge, tout au long de l'histoire du Hong Kong britannique, c'est devenu un refuge pour les Chinois qui fuyaient le régime despotique chinois. D'abord, les Mandchous, ensuite, après 1912, la République de Chiang Kai-shek. À cette époque, ce sont les républicains qui se cachaient à Hong Kong. Ensuite, une fois que la République a été installée, c'était les communistes qui venaient se réfugier pour échapper au parti Kuomintang. Et puis, après 1949, ce sont les victimes ou les ennemis du régime du régime communiste qui sont allés se réfugier à Hong Kong. Et à partir de ce moment-là, c'était beaucoup plus définitif parce que ce sont les communistes qui ont installé une vraie frontière entre Hong Kong et la Chine. Alors que jusqu'à 1949, le passage des deux côtés est extrêmement facile. Une autre ironie de cette histoire, je ne rentre pas dans, je ne vais pas vous raconter toute l'histoire de Hong Kong, mais une autre ironie de cette histoire, c'est que l'extension du territoire de Hong Kong en 1998 par l'inclusion de ce qu'on appelle les nouveaux territoires, Xintie, a été décidée en fait pour empêcher les marines françaises et russes d'attaquer les Britanniques. Donc ça, souvent les gens ne le savent pas, mais en réalité, cette extension, donc, elle est apparue en fait par la suite comme une nécessité pour le développement de Hong Kong, mais elle ne l'était pas au départ. Et ce développement a rendu inimaginable la survie de Hong Kong sans l'existence de ce territoire qui représente quand même 86% de la surface totale. Mais le fait que cette extension n'ait pas été une extension par une cession définitive comme l'avaient été Hong Kong et Kowloon, mais par un bail qui est un bail emphytéotique, c'est-à-dire de 99 ans, a créé une sorte d'épée de Damoclès qui pendait au-dessus de la tête de Hong Kong, de l'avenir de Hong Kong, puisqu'il y avait une date limite à l'existence même de cette entité spécifique de Hong Kong. L'autre ironie, c'est que aussi bien le régime républicain du Kuomintang que le régime communiste ont toujours dit qu'ils ne reconnaissaient pas la validité des traités qui étaient considérés comme des traités inégaux qui avaient été signés par l'Empire Mandchou. Mais même s'ils ne les reconnaissaient pas, et donc s'ils affirmaient la souveraineté de la Chine sur Hong Kong, ils ont, dans les faits, l'un et l'autre, aussi bien le Kuomintang que le Gongchandang, accepté l'existence de cette colonie. Et ils s'en ont servi, ils s'en sont servis aussi bien l'un que l'autre. Autre période dramatique pour Hong Kong, c'est justement quand le Parti communiste a pris le pouvoir, même s'il n'est pas cherché à reprendre Hong Kong, le fait même qu'il crée une entité socialiste en Chine mettait en danger l'existence même de Hong Kong, c'est-à-dire sa raison d'être, qui était le commerce avec la Chine, ce qui a toujours été le commerce avec la Chine. Et donc, comme il n'y avait plus de commerce, pratiquement plus de commerce entre le monde capitaliste et le monde socialiste, Hong Kong était au bord de l'extinction. Au début des 1950, le taux de chômage est de 30%. Et Hong Kong est entièrement submergé par les réfugiés. On ne sait pas quoi en faire. Ils habitent dans des bidonvilles sur les collines de Hong Kong. Mais là encore, on assiste à une ironie heureuse par le fait que parmi ces réfugiés, il y a un certain nombre de capitalistes shanghaïens qui ont fui le communisme chinois avec leurs capitaux, avec leur savoir-faire, et ils vont créer à Hong Kong une industrie qui n'avait jamais existé. Et en plus, tous ces réfugiés qui étaient arrivés à Hong Kong vont devenir une main-d'œuvre bon marché pour ces usines, pour cette industrie. Donc, finalement, Hong Kong a survécu, mais évidemment, les conditions de vie étaient difficiles pour la population ordinaire. Et d'autant que elle a encore augmenté en 1962, quand la famine due au grand bond en avant en Chine a atteint le Guangdong et que les autorités locales ont laissé sortir les gens qui mouraient de faim. Et donc, que Hong Kong a été de nouveau inondé par des réfugiés, dont environ... certains ont été renvoyés, mais environ 100 000 ont réussi à rester. Et cette situation difficile a fait qu'en 1966, il y a eu une émeute assez importante, causée par l'augmentation de 5 centimes du billet du ferry entre Hong Kong et Kowloon, mais en fait qui exprimait tout un mécontentement social général. Et ensuite, l'année suivante, on a eu un nouveau mouvement qui était très différent, puisqu'il était là totalement politique, manipulé par les radicaux qui avaient pris le pouvoir au ministère des Affaires étrangères chinois, du fait de la révolution culturelle. Et donc on a eu ce mouvement qui était un mouvement de vraiment subversif, puisqu'il s'agissait en fait d'essayer de renverser, de chasser les Anglais de Hong Kong, et qui a été aussi un mouvement terroriste, puisque les protestataires ont utilisé des bombes et ont utilisé même l'assassinat d'un commentateur de radio considéré comme anticommuniste. Donc, ce qui est assez, encore une autre ironie, bon, ça a été très violent, puisqu'il y a eu 51 morts, dont 15 par bombe, et 800 000 blessés. Donc c'était quelque chose d'assez grave. Et ce qui est ironique, évidemment, c'est que ces jeunes activistes communistes, qui étaient à l'époque, bon, il n'y avait pas que des jeunes, mais il y avait beaucoup de jeunes activistes qui étaient en fait pour la plupart des élèves des lycées communistes de Hong Kong, et qui étaient poussés à chasser les Britanniques. Et ce qui est ironique, c'est de voir que ces gens-là, qui étaient pro-communistes, sont aujourd'hui devenus des gens bien installés, ils font partie de l'establishment de Hong Kong, et tout récemment, donc, il n'arrête pas de se plaindre de la violence des jeunes d'aujourd'hui, hein, de la jeunesse. Donc, alors que même, on fait bien pire hein, quand ils étaient jeunes à Hong Kong en 1967. Hein, je pense par exemple à un monsieur qui s'appelle Ip Kwok Rim, hein, et qui est un membre du conseil exécutif et qui n'arrête pas de critiquer les jeunes et qui en réalité lui-même a participé très activement à ce mouvement terroriste de 67. Donc, ce qui a été important et ce qui montre la différence peut-être entre un régime démocratique, celui de la Grande-Bretagne, et un régime totalitaire, je dirais même, enfin, pensons à utiliser autoritaire, je pense qu'il faut dire le mot, hein, c'est un régime totalitaire, le régime chinois. La différence, c'est que les Britanniques ont tout de suite cherché à réfléchir, à se demander comment éviter qu'un tel mouvement ne réapparaisse. Et donc, la solution, ça a été finalement, en 1971, d'ailleurs, au même moment où moi, j'arrivais à Hong Kong, l'arrivée d'un nouveau gouverneur qui s'appelait Mac Lehose et qui a transformé profondément la société de Hong Kong en développant le logement, qui était un problème catastrophique, l'éducation, qui était aussi à l'époque réservée à une petite élite, et d'autres aspects de la vie sociale, notamment les questions d'emploi, de syndicats, etc. Et donc et le résultat que moi j'ai vécu en tant que jeune étudiant enseignant à Hong Kong, ça a été que Hong Kong est devenu un endroit où les Hongkongais se sont sentis chez eux. Hein, ils se sont sentis chez eux et ils ont commencé à créer une véritable identité hongkongaise qui n'avait jamais existé. Hein, et ils se sont réellement installés alors qu'avant, les Hong Kong était un endroit de passage la plupart du temps. Hein, les gens fuyaient la Chine avant de partir ailleurs. Hein, et en réalité, à partir des années 70, les gens restent parce qu'ils se sentent bien à Hong Kong. Mais l'ironie, alors là, c'est l'ironie tragique fondamentale qui agit encore aujourd'hui, c'est qu'au moment même où les Hongkongais commençaient à se sentir chez eux, la question de 1997 a dû être confrontée. Parce que dans les nouveaux territoires, les baux, hein, c'est-à-dire les baux qui étaient signés par le gouvernement et les propriétaires, étaient des baux à 15 ans. Et donc, plus on approchait de 97, plus la question se posait de est-ce que le gouvernement britannique a le droit de continuer à gérer la terre à Hong Kong. Hein, et donc, ça, c'était le problème fondamental. Mais d'un autre côté, comme la Chine, à ce moment-là, commence à s'ouvrir, hein, en 1979, hein, c'est Deng Xiaoping qui commence à devenir le numéro un, et donc le gouverneur et les hommes d'affaires de Hong Kong pensent que c'est le moment de poser la question. Donc, Mac Lehose va en 79 à Pékin, il parle avec Deng Xiaoping, et il lui pose la question, que faire, hein, que faire avec Hong Kong, l'avenir de Hong Kong après 97. Et là, Deng Xiaoping répond que il fangxin, vous pouvez, les Hongkongais peuvent se sentir le cœur tranquille, mais il dit aussi plus discrètement à Mac Lehose, si vous nous posez la question, nous serons obligés de dire que nous voulons reprendre Hong Kong. Hein, parce que autrement, nous serions des criminels aux yeux de la nation. Et donc, le problème s'est posé à partir de ce moment-là. Les Hongkongais, les Britanniques ont décidé, et les Chinois ont décidé de trouver une solution. Et en fait, la base de la solution a été cette idée de Deng Xiaoping qui a été citée par Mao Zedong, c'est-à-dire un pays de système, equal range. Bon. Et les discussions ont eu lieu de 1982 à 1984, et en fait, elles ont uniquement consisté à faire accepter par les Britanniques le plan qui avait été déjà décidé par Deng Xiaoping. Mais les Britanniques ont quand même obtenu quelques concessions sur les questions des libertés et sur l'objectif dont on a parlé de l'élection future du chef de l'exécutif et du conseil législatif au suffrage universel. Donc c'est important. Et en 1984, donc la déclaration conjointe sino-britannique à propos du transfert de souveraineté a été signée et le texte a été enregistré à l'ONU comme un traité international. Et ce qui a entraîné la reconnaissance de ce transfert de souveraineté par tous les pays du monde, y compris les Européens, les Américains, etc. Et donc l'idée principale, c'était que Hong Kong obtiendrait un haut degré d'autonomie et que Hong Kong serait gouverné par les Hongkongais eux-mêmes. Ce n'est pas Pékin qui enverrait des gouverneurs. Ce qu'il faut remarquer, c'est que dans toutes les négociations, la population de Hong Kong n'a pas été consultée. Le gouvernement chinois considérait en effet qu'il était le représentant naturel de la population de Hong Kong, puisqu'il avait la souveraineté sur ce petit bout de terre. En fait, le gouvernement chinois avait depuis toujours œuvré pour empêcher l'autodétermination ou l'indépendance de Hong Kong. Et ça, on a maintenant la preuve que dès 1958, des pressions avaient été faites par Zhou Enlai et par d'autres dirigeants chinois pour que les Britanniques ne préparent pas Hong Kong à une autodétermination, notamment en libéralisant, en démocratisant, que ce serait considéré comme un casus belli et que donc le Hong Kong serait reprise si jamais cette évolution avait lieu. Par ailleurs, en 1972, quand la Chine, la République populaire de Chine, a remplacé la République de Chine au poste de représentatif de la Chine à l'ONU, la première chose qui a été faite par le gouvernement communiste, ça a été de faire retirer de la liste des territoires à décoloniser Hong Kong et Macao. Donc, c'était très clair. Mais la tragédie, je dirais, fondamentale dans cette affaire, c'est que l'immense majorité de la population qui n'a pas été consultée souhaitait en fait le maintien du statu quo, c'est-à-dire des Britanniques à Hong Kong, et refusait le transfert de souveraineté à la Chine. Il n'y a pas eu de consultation officielle, mais il y a eu des sondages d'opinion qui étaient très clairs, avec en général environ 85% de la population en faveur du maintien des Britanniques hein, sous une forme ou sous une autre, qui aurait pu changer, mais qui serait le maintien des Britanniques, et moins de 5% de la population qui était en faveur du transfert de souveraineté. Donc, on voit qu'il y a, pour la population de Hong Kong, en fait, elle est passée d'une domination à une autre domination sans être consultée. C'est pourquoi, déjà, en 1990, j'ai publié mon premier texte sur Hong Kong, c'était un chapitre sur Hong Kong dans un ouvrage qui s'appelle « La Chine au XXe siècle », et je l'avais intitulé, déjà, en 1990, « Hong Kong, d'une colonisation à l'autre ». Et c'est effectivement ce qui était ressenti par beaucoup de gens à Hong Kong. Malgré tout, il y a eu un travail idéologique qui a été fait par les autorités chinoises et il y a eu aussi une reconnaissance des garanties qui avaient été promises dans la déclaration conjointe. Et donc, un certain optimisme est revenu dans les années 80 à Hong Kong. En fait, comme la Chine semblait vouloir s'orienter vers plus de libéralisme, plus d'ouverture vers l'Occident, certains ont commencé à rêver à une rétrocession démocratique. Minzhu Hui Gui. Hong Kong aurait en fait aidé le continent à se démocratiser. Donc ça, c'était le rêve. Hélas, une péripétie profondément tragique est arrivée en 1989, donc le massacre du 4 juin. Pao Song en a déjà parlé. Les Hongkongais se sont sentis extrêmement concernés. Et ils avaient bien sûr raison. Et ce qui est tragique, c'est que finalement, c'est celui qui avait créé l'idée d'un pays de système qui a aussi causé le massacre du 4 juin. Et donc, une page de l'histoire s'est tournée et c'était la fin de ce qui, à mon avis, pouvait et était envisagé comme une possibilité de succès d'un pays de système que je résumerai par deux mots, convergence et tolérance. D'une part, pourquoi 50 ans? Parce que Deng Xiaoping pensait qu'au bout de 50 ans, il y aurait une certaine convergence entre Hong Kong, entre le système de Hong Kong et le système chinois. À l'époque, en 1987, il a encore dit officiellement que dans 50 ans, sans doute, la Chine aurait aussi le suffrage universel. Il l'a dit publiquement. Et donc, il y avait cette idée d'une convergence. Et il a dit d'ailleurs, bon, s'il y a encore des problèmes, on peut très bien prolonger les 50 ans. Il a dit, c'est au moins 50 ans. Bon. Mais s'il n'y avait pas cette convergence, il pouvait y avoir au moins une tolérance. C'est-à-dire que le gouvernement communiste pouvait tolérer l'existence d'une entité avec un système différent. Bon. Mais évidemment, là, il y avait aussi peut-être une incompréhension de ce qui faisait Hong Kong. C'est-à-dire que pour que Deng Xiaoping a décidé rassurer les Hongkongais, de leur dire, vous allez pouvoir continuer à jouer aux courses, à jouer à la bourse et à danser. Ma zhao pao, gu zhao chao, wu zhao tiao. Donc ça, parce que c'était l'image que les gens, que les continentaux se faisaient de Hong Kong. Mais évidemment, dans tout ça, les libertés de la vie quotidienne, des libertés concrètes dont a parlé Barzon, évidemment, n'étaient pas vraiment pris en compte. Malgré tout, Deng Xiaoping était confiant que ses successeurs seraient tolérants. Hein, il l'a dit dans un texte de 87. Hélas, à partir de 89, on a eu, au lieu de la convergence, on a eu la divergence et on a eu aussi l'intolérance. À partir de 97 notamment, mais même avant d'ailleurs dans les discussions, puisque après 89, comme l'a dit Barroson, le gouvernement chinois s'inquiète du risque de contagion démocratique venant de Hong Kong. Et donc, là, il fait rajouter dans le projet de loi fondamentale qui était en discussion l'article 23 qui prévoit que le gouvernement de Hong Kong devra établir une loi contre la subversion, la sédition, la sécession. Cette loi, évidemment, est une loi qui risque de remettre en cause beaucoup de libertés, notamment la liberté d'expression, la liberté de la presse, etc., à Hong Kong. Et donc, elle a posé un problème. En 2003, donc, pour la première fois, les autorités de Hong Kong ont essayé de faire passer cette loi, mais il y a eu un premier mouvement, enfin qui a été bref, puisqu'il a été un succès, un grand mouvement populaire avec une grande manifestation en juillet 2003 pour refuser donc l'établissement de cette loi. Et comme les hommes d'affaires ont aussi soutenu, ont aussi refusé de voter ce projet de loi au LegCo, au Conseil législatif, finalement, et le projet est tombé à l'eau. Donc, mais il revient toujours, et là, depuis quelques jours, il est particulièrement mis en avant par le pouvoir de Pékin comme une solution au problème. Et le 4 juin a ravivé l'angoisse des Hongkongais à l'idée de devenir une partie de ce régime, de ce pays où il se passait des choses comme le massacre du 4 juin. Il faut bien comprendre que là, ça a renforcé les divergences. Malgré tout, bon, et puis après 97, il y a eu une érosion légère, et, enfin pas légère, mais progressive, très progressive, de certaines libertés, comme la liberté de la presse notamment, mais ça ne s'est jamais passé par des méthodes violentes. Tout ça s'est fait en général par des pressions économiques, par des rachats de médias de Hong Kong, ou la création de médias à Hong Kong par les autorités chinoises. Donc, cette érosion n'a pas été, n'a pas suscité un rejet très important. Mais la situation a commencé à se durcir à partir du moment où Xi Jinping est arrivé au pouvoir en Chine. On voit très clairement qu'il y a eu un durcissement à partir de ce moment-là, non seulement dans l'attitude du parti à l'égard de la société chinoise, mais aussi à l'égard de Hong Kong. Et on en est arrivé à un point aujourd'hui où finalement les deux systèmes qui devaient coexister, ne peuvent pas s'entendre parce qu'ils ne parlent tout simplement pas la même langue. En cantonais, on dit Kai Tong Ngap Kong. Les poulets parlent avec les canards. Il n'y a pas de langage commun. On ne peut pas se comprendre. Et donc, et à partir de l'arrivée de Xi Jinping au pouvoir, on a le document numéro 9 en Chine, qui est un document très important, même s'il n'est pas officiel, enfin public, disons, qui désigne comme adversaire absolu toutes les valeurs fondamentales du libéralisme occidental, et les valeurs universelles, et qui les désigne même comme des moyens pour les pays, les forces hostiles étrangères de subvertir le système chinois. Dans ces conditions, il est difficile d'avoir un dialogue possible. Hein. D'autant que, d'ailleurs, on le voit très bien, c'est que aujourd'hui, quand le mouvement de Hong Kong fait des demandes démocratiques, hein, les autorités chinoises disent tout de suite qu'il s'agit d'une tentative de subversion par des forces hostiles étrangères. Baosong a déjà répondu à ça. L'autre problème, oui. Le problème qu'a évoqué Baosong, c'est celui de la promesse du choix du numéro un, de chef de l'exécutif, par un suffrage universel. Bon, à partir de 2014, c'est devenu une sorte de... Il y a eu un tour de passe-passe, une sorte de jeu sur les mots qui a été mis en avant par le pouvoir chinois en disant que, oui, il y aura un suffrage universel, mais parmi deux ou trois candidats qui auront été choisis par un comité électoral qui lui-même aura été choisi par Pékin. Donc, en réalité, c'est un refus d'une élection réelle au suffrage universel. Et en fait, ce qu'on a vu, c'est que toute la logique de tolérance et de respect du haut degré d'autonomie a été remplacée par une autre logique qui insiste sur la prééminence d'un pays sur le système de Hong Kong. Yiguo est vraiment mis au-dessus de Liangzhe, et ça a été théorisé par un professeur de l'Université du Peuple nommé Tiang Shekong, qui a affirmé que dans le cas de Hong Kong, comme dans ceux du Tibet, du Xinjiang et même de Taïwan, il fallait appliquer un modèle qui est un modèle en fait impérial, le modèle du Tianchao, du système tributaire, dans lequel les entités inférieures devaient absolument reconnaître le pouvoir absolu du centre. Et en fait, ce Tiang Shekong est un disciple de Carl Schmitt, l'intellectuel nazi, devenu ensuite admirateur de Mao dans les années 60, se réfère à ce pouvoir juridictionnel total, quanzhe quan, que le centre doit exercer sur les entités inférieures. Et ce terme est apparu pour la première fois dans le livre blanc, donc très officiel, sur la pratique d'un pays de système, publié en Chine en 2014. Ce texte a marqué le début de la fin de l'espoir d'un réel haut degré d'autonomie pour Hong Kong. Je signale que Guanzhong, qui est ici, Chen Guanzhong, a écrit un excellent article sur le sujet qui s'appelle Tianchaozhuyi yu Xiangang, qu'on pourrait traduire par le tributarisme et Hong Kong. Parallèlement, le régime commençait à dire que la déclaration conjointe sino-britannique n'avait plus aucune valeur, hein, que c'était un document dépassé. Donc ça aussi, c'est évidemment très inquiétant. Donc, la tragédie aujourd'hui pour les gens, pour les Hongkongais, c'est qu'ils sont confrontés à un pouvoir qui est non seulement dominateur, mais aussi paranoïaque. Et pour lequel, je dirais que toutes les contradictions sont antagonistes. Mao avait fait une différence entre les contradictions antagonistes et les contradictions non antagonistes. Bon, il a pratiqué la contradiction antagoniste quelques mois entre 56 et 57 avant de mettre en prison tous ceux qui avaient osé s'exprimer, hein, et donc en les traitant d'anti-droitiers, en les traitant de droitiers et en les envoyant en camp. Avec Deng Xiaoping, le compromis a été possible, hein, mais bon, pas dans tous les cas, évidemment, mais dans certains cas. Or, avec le retour avec l'arrivée de Xi Jinping, on est retourné à la primauté de la contradiction antagoniste. Il n'y a pas de milieu. Il n'y a pas de milieu, il n'y a pas de compromis possible. Si bien que la moindre contradiction est transformée en une contradiction entre nous et l'ennemi. On le voit, on l'a vu très bien avec l'intellectuel ouïghour, hein, Ilham Tohti, qui a simplement demandé que le gouvernement central respecte la culture ouïghour et qui s'est retrouvé en prison à vie pour avoir voulu faire sécession, ce qui n'a jamais été le cas. De même, aujourd'hui, les protestataires de Hong Kong sont définis comme des indépendantistes manipulés par des forces hostiles étrangères. Donc, on voit cette volonté de placer toutes les contradictions à un niveau conflictuel dans lequel le pouvoir de Pékin sait qu'il est le plus fort. Il est le plus fort pour se battre, mais il ne sait pas passer de compromis, faire de concessions, parce qu'il pense, Xi Jinping pense que le Parti communiste chinois ne peut éviter le sort du Parti communiste soviétique qu'en refusant tout compromis, toute concession, toute évolution vers un modèle plus libéral. Donc, on voit ce problème. Et donc, dans ces conditions, il n'y a pas de dialogue possible. On est vraiment dans le dialogue entre le canard et le poulet. On l'a vu tout récemment quand... après le quatrième plénum, les autorités chinoises ont dit mais il faut réintroduire l'éducation patriotique, non seulement pour les lycéens, mais aussi pour les fonctionnaires. Alors, l'éducation patriotique, c'est évidemment le lavage de cerveau qui marche en Chine parce qu'il n'y a pas d'autre possibilité que d'absorber les informations données par le pouvoir, mais dans un système comme le système de Hong Kong où toutes les informations circulent, c'est tout à fait impossible d'avoir un lavage de cerveau, puisque toutes les informations sont là sur la réalité des événements présents et des événements passés. C'est ce qui est tragique, c'est que finalement, ce que les dirigeants hongkongais devraient faire comprendre au gouvernement de Pékin, c'est justement ça, c'est qu'il y a une autre façon de fonctionner, que les méthodes chinoises ne peuvent pas fonctionner à Hong Kong. Eh bien non, pour se faire bien voir, pour être choisi par Pékin, pour être membre, pour être chef de l'exécutif ou membre du conseil exécutif, etc., les Hongkongais se comportent comme des collabos, c'est-à-dire ceux qui sont au pouvoir ne considèrent que les intérêts de Pékin et évidemment leurs propres intérêts de clic, je dirais, et ne prennent pas en compte les intérêts de l'immense majorité de la population de Hong Kong, d'où la colère des Hongkongais. Et donc on est dans une situation où maintenant même Carrie Lam est comparé à, sur WeChat, à un secrétaire du parti ou même à Jiang Qing. On voit mal quelle solution on peut trouver. Et en fait, on se trouve dans un conflit de base entre les valeurs de liberté, les valeurs des régimes démocratiques et les valeurs d'un régime dictatorial qui a l'ambition de devenir un modèle et peut-être la première puissance mondiale. Donc, le problème, c'est que les étrangers, on est peut-être dans une nouvelle guerre froide qui commence, mais les régimes démocratiques ont peu de moyens de soutenir le mouvement de Hong Kong. Hein, en réalité, peu de moyens pratiques. Et donc, malgré tout, il faudrait que les gouvernements occidentaux s'inquiètent de la situation de Hong Kong, parce qu'en réalité, ce conflit ne va pas s'arrêter à Hong Kong. C'est un conflit qui est en réalité un conflit universel. Et donc, voilà, on peut se demander si, étant donné que Xi Jinping a une attitude très dure, très, très, très arrogante, je dirais, au niveau international, certains dirigeants de pays occidentaux commencent à peut-être se poser des questions. La question, c'est quand le monde s'éveillera, est-ce que la Chine tremblera? Voilà, je terminerai ainsi.
Avant que je dise des choses, que j'ai eu des informations à faire circuler, parce que hier, pendant la nuit, justement, que je n'ai pas pu dormir, à 2 heures du matin, que j'ai découvert dans mon mail, je ne sais pas, les personnes sont présentes ou pas, quelqu'un qui a organisé une exposition sur le mouvement Hong Kong à Paris, hein, je ne sais pas, cette personne dans la salle ou pas, de toute manière qu'il y a une exposition hein, avec des photos, tout ça, sur le manifeste. Si parmi vous, quelqu'un qui s'intéresse davantage, vous pouvez faire attention à ça. Hein. Je ne sais pas que c'est cette personne qui m'a envoyé ce mail dans la salle ou pas. Hein. Voilà, donc c'est ça que la première chose. Bon, merci Michel. On va peut-être réduire au départ, au début, réserver pour 20 minutes, en 5 minutes, pour la question de chaud, hein, pour réagir les deux interventions. On réserve toutes les autres questions hein, pour cet après-midi. On a un peu plus de temps pour faire un débat plus en profondeur. Voilà, donc on va peut-être vous laisser poser une ou deux questions. Après, on s'arrête rapidement. Il faut qu'on mange après pour cet après-midi. OK?
Professor Chou, I presume have all been aware of what happened yesterday. It's been quite an eventful day. Rumor has it that the authority intends to impose the curfew and even the martial law, although they immediately issued an announcement. Well, I'm wondering what's your opinion in this connection, despite their repudiation. Such a menace or risk still always exists, and should this scenario came true, what possible consequences is to be anticipated, according to you, for Hong Kong and for mainland China? That's my question.
I heard that
对，宵禁和那个 martial law 和那个戒严，不知道这个，他们虽然最后说，他们不会这么做，但你觉得这样危险会继续存在吗？然后，假设这样一种情况出现的话，会对香港和中国大陆有？
Tout le monde a compris la question. Bon, en tout cas, parce qu'il a déjà dit d'abord en anglais, voilà, donc simplement pour dire que, qu'est-ce que M. Zhou pense, parce qu'on a parlé de le couvre-feu en Hong Kong, hein, et aussi, une fois c'est qu'on met en œuvre, quel est l'impact pour Hong Kong aussi pour la Chine, voilà.
我谢谢你的问题哈，我刚才其实在 WhatsApp 里面跟我的中文大学的同事在紧急的联系，因为我们校的校长去了学校的，因为现在有一个很大的冲突在中文大学里面，警察要进校，学生在抵抗，然后校长在去到前线，我的同事求校长走到前线，但结果催泪弹还是打下来，就是 校长也承受这个催泪弹。我为什么要讲这个故事，因为我是不太能够理解，我不太能够理解警察为什么要做这样的行动，哈，因为没有必要。我的意思是说，他没有必要用这样高的武力来去对学生做这样的一个镇压，哈。但虽然我知道学生是有在中文大学旁边有一条铁路，有些同学是将那些杂物掉进那个铁路里面，阻挡那个铁路通行。但这个我可以理解，就警察来干预，然后保护那个铁路，在那条我们中大有条桥哈，不要那条桥被学生控制。我可以理解，但是我不能够理解，就是说他为什么要故意的用这样的武力？我猜想哈，我其实正在想，就是他可能有一个。会不会警察或者政府是有一个想法，是将这个冲突进一步的提升？因为马上11月份我们就有一个区域会选举，哈，就有一个那个 district council 的 election， 而在在这样场面之下，如果区域会选举的话，民主派一定会大胜，所以其实他们可能会用不同的理由来将这个矛盾跟这个冲突提升到最高。然后就有回到你那个问题，就有可能就你刚刚所讲的所谓的宵禁或者所谓的取消区域会选举这我想这两天会看到这个情况会转变很快的啊，所以这个是我的一个观察哈，但是不是这样子，我当然没办法很确定哈，这个是第一最后你那个你说之后会有什么影响我只能够说，在整个现在目前发展里面其实最后中方是有最后的主导权的，因为现在香港的特首、香港的警察基本上是完全没有自主的能力的，所以大家很清楚，就是现在香港政府跟警察所做的决定一定是中方在背后决定，所以出什么牌，怎么样去让这个运动能够停下来呢，其实我觉得最后的责任是看中方，在中方想这个运动怎么走，或者他下一步是他有什么背后有什么想法，这个才是关键。所以千万不要以为示威者可以用的武力，大家不要，其实是完全微不足道的，就是包括学生完全微不足道的，所以其实完全是不可能有真正的武力上的对抗的可能。我先讲到这里。
Donc, pour répondre à cette question, effectivement, là, j'étais sur WhatsApp en fait avec des collègues parce que, comme vous le savez, donc la police essaye de pénétrer à l'intérieur du campus de l'université chinoise de Hong Kong, et donc il y a des conflits là très forts avec les étudiants, et donc il y a le président de l'université en fait qui voulait essayer de rejoindre la ligne de front en fait pour justement discuter et empêcher cette action. Alors moi en fait je comprends pas. Lui-même a été a subi les gaz lacrymogènes et j'avoue que moi-même je comprends pas très bien pourquoi la police veut à tout prix engager cette force et entrer sur le campus parce qu'il y a pas besoin en fait. Alors c'est vrai que certaines personnes, comme il y a une voie de chemin de fer à côté de l'université, ils ont mis des choses sur la voie pour empêcher en fait les trains de circuler. Donc je comprends que la police cherche à protéger la voie de chemin de fer, mais je comprends pas en fait pourquoi l'intensité de cette intervention. Et la seule chose que je peux deviner, mais c'est une présupposition, c'est que peut-être il y a cette idée en fait d'intensifier le conflit. Vous savez tous que on va bientôt avoir des élections pour les conseils de district à Hong Kong et au vu de l'importance du mouvement, les forces démocratiques risquent d'avoir une grande victoire et donc augmenter en fait la contradiction, le niveau de conflictualité, ça peut permettre peut-être justement à terme de supprimer, d'annuler ces élections, voire d'avoir recours à des dispositifs d'état d'urgence et autres. Il faut bien comprendre, et sur la fin de votre question, sur l'influence que ça pourra avoir sur Hong Kong, il faut bien comprendre que dans tout le processus de développement de ce mouvement, c'est la Chine, c'est le gouvernement chinois qui a d'une certaine manière le pouvoir de décision, qui va déterminer la sortie ou pas de ce mouvement. Le gouvernement hongkongais et même la police ne sont pas en capacité de prendre de réelles décisions qui reviennent à la Chine. Donc ce sera la responsabilité du gouvernement chinois, et c'est l'élément clé en fait de l'arrêt de ce mouvement. Mais pour l'instant, évidemment, on ne peut pas en dire grand-chose.
Tout d'abord, bonjour à toutes et à tous. En fait, tout d'abord, je voudrais parler un peu en français pour vous présenter. C'est que je voudrais poser la question pour M. Zhou. Il y a 5 ans que M. Liang Wentao a visité l'université, j'ai posé une question pour demander c'est quoi la value neutre. Aujourd'hui, dans ce contexte, j'ai pris une vraiment très bon cours pour tout ça. Et après, je vais demander les questions plus précises. Donc, je vais parler en chinois, c'est plus pratique. Je voudrais vous demander 我认为很多东西还无法辨识，所以我更情愿跳出来，这样或许有一点点的价值中立。这是我5年前问梁文道先生的那个问题。那完了之后，那可能他肯定是记不得了。那完了之后，那么对于逻辑来讲的话，因为有几个非常关键的词概念是我刚刚记录的。第一个就是关于您提到今天运动的目的是为了争取自由和反极权。Donc la liberté est anti-dictature. 那么在这个过程当中呢，你提到自由不是一个抽象的感，有具体的指标。所以在这个问题上，首先第一个小问题是您是否在大陆长期的生活和工作过？有。那我是在大陆，我没有在香港长期工作和学习过，所以有去提问。但是我作为一个在大陆生活了25年的人，我觉得您提出的那7条，一项每一项我都拥有。 就是人身自由我没有觉得私有 财产和私有企业受到法律的保护，恐惧，我甚至都觉得说我半夜一两点两三点回家一点 organ problem。 游行我不知道游行的指标是什么，如果是大型的游行像天安门或者说是成都的那个游行啊，那个可能是比较少，是小型的游行，比如说哪个房地产黑商，哪个区域政府的不公啊，您可能还没有看到过那种白底黑字的游行的那种，我是见过的。自己的政治观念不太知道您清不清楚，在高中的时候又有很多社团，然后我那个时候哈，就是十几岁的时候，就是经常，对对对，所以说这七条我没有觉得说有一条我没有，程度上，或许程度上，这是第一个。第二个是您说到中国大陆是一党专制，我想提出一个疑问，就是您如何理解我们在官方提出的执政多党合作的概念啊，以及这就提到下面一个问题，就是您民主是指的哪种民主，因为有西式民主还有各种各样其他的民主，有西方世界，有阿拉伯世界，有华人世界，所以说您提到的这个概念是哪个概念，所以我会觉得说这个是
那个朋友，那个能不能简单一点好吧，
哦，他讲完了，
他基本上
OK， 我很谢谢你的问题啊，
traduire tout simplement hein, c'est la question de ce monsieur, c'est que il voulait savoir qu'est-ce que monsieur Zhou pense que la démocratie en Chine hein, selon la liste de liberté avancée tout à l'heure par monsieur Zhou, il pense que la Chine selon lui hein, tous les Chinois ont déjà disposé hein, c'est la liberté sans crainte bon, en grosso modo hein, c'est ça, c'est toutes les libertés déjà ensuite il pose cette question concernant la démocratie, quelle est la définition de la démocratie, et selon lui il y a plusieurs manières de démocratie, voilà, c'est ça, c'est grosso modo, il veut savoir qu'est-ce que
OK, 我很谢谢你的问题啊，我很简单的回应一下啊，第一点我其实也很好奇，其实我是在大陆出生的啊，然后我是十几岁才移民来香港 OK 啊，但这个不重要啊，我先了解一下刚才你提到那几个问题啊，我刚才提到自由对不对，言论自由，角色自由，信仰自由啊，示威游行的自由啊，表达意见的自由，我刚才提到这些啊，我先请在座好像我看大家的脸孔应该挺多是在大陆生活过的朋友，我先做一下民意调查，你们觉得你们在大陆都享有这些自由，是一个程度的概念，当然不是一个零跟一百，是程度，我只是做一点点民意调查，就你们觉得你们在大陆跟比如你们现在在法国巴黎生活 OK 你们在大陆你们觉得你们享有的自由，在这刚才说具体的讲这几点上面，你们觉得是受到严重的限制的朋友举手一下 OK， 其实我就不需要回答了对不对，就是这你们应该比我更有资格来讲，但我可以用一下我的个人的经验来告诉分享一下，我现在是过去这几年我是不能够回去大陆，好像这样子不能够回去大陆做任何的，在学校里面在书店里面是不允许我在做这样的交流的，我是不可以我做了什么呢，其实我也不知道我发表什么言论结果让我承受这个代价，我这没有从来没有官方人刚告诉我，只是我说我不能够做，一做对方就会受到很大的惩罚，这主办方这个是一个例子。第二个例子，其实我在过去八年我一直在微博上面，大家可能知道微博就是我在微博其实一直在过去这么多年八年吧八九年一直在坚持跟中国大陆的很多朋友做非常温和严肃认真的思想交流，可能在座应该有些朋友可能也是我的微博的 follower， 大概知道我说这个说话应该是个可以求证的，我 我开了四个户口，第一个是叫周宝松被炸了，后来叫宝松周也被炸了，然后我叫松宝周，叫宝松周。在今年六月这个运动刚开始的时候，六月份我几乎其实没有发表过任何所谓激进的言论，也没有任何的解释之下也在被炸了。我写了一篇很长的文章，你可以去端传媒里面看，叫自由诚可贵，我的微博炸号记事，差不多两万字的文章，我非常强势的说明在中国当下这个情况之下，我个人的经历，我的言论自由是在最基本的言论自由是在什么样的状态之下被 压迫跟剥夺的。所以 我希望用刚才其他朋友的举手跟我刚才个人的分享，让你知道，比如你是做社会学的，你可以理解一下，可能你叫比较 lucky 了，你叫比较幸运了，就你在你生活世界里面从来没有这种被自由被剥夺的感觉，但这个不是我或者不是在座很多朋友的生活的经验。好，谢谢你。
Donc, merci pour cette question. Je vais répondre rapidement. Alors, d'abord, moi, je suis née en Chine continentale et c'est à 17 ans que je suis venue à Hong Kong. C'est pas important, mais quand même, il faut le rappeler. Sur la question des libertés, donc, vous dites que, en Chine, vous avez l'impression de disposer de toutes les libertés que j'ai mentionnées dans ma communication. Je vais faire une sorte de petit sondage d'opinion parmi les gens qui viennent de Chine continentale, notamment les étudiants. Est-ce que vous aussi, vous avez l'impression de disposer de ces libertés par rapport à Paris ? Et donc, voilà, beaucoup de gens ont levé la main pour montrer en fait qu'ils avaient l'impression que justement ces libertés souffraient d'une grave limitation en Chine continentale. Moi-même, en fait, je ne peux pas retourner en Chine, participer à des événements dans les universités ou dans les librairies. Qu'est-ce que j'ai fait ? Je ne sais même pas, en fait. Personne, d'un point de vue officiel, ne m'a expliqué pourquoi. Par contre, ce que je sais, c'est que toute institution qui m'inviterait risquerait une punition en m'invitant à parler. Et depuis le début de ce mouvement, donc j'ai un compte sur Weibo qui est l'équivalent de Twitter en Chine depuis 8 ou 9 ans, et je fais attention sur ce compte justement de maintenir un dialogue, un échange de pensées avec tous les gens en Chine continentale. Donc j'ai des propos plutôt modérés. Eh bien, depuis le début du mouvement, en fait, mon compte a été supprimé à différentes reprises. J'ai changé mon nom, mon identifiant plusieurs fois, mais ça n'a rien fait. Donc j'en ai même fait un article, en fait, justement, sur comment cette quête de liberté à Hong Kong, eh bien, elle était censurée en Chine. Et donc, si vous faites de la sociologie, c'est bien, mais justement, vous devriez prendre conscience à quel point vous êtes chanceux d'avoir l'impression d'avoir ces libertés en Chine.
Excuse-moi, on doit impérativement s'arrêter parce qu'on a réservé le restaurant, on doit aller manger. Le restaurant ne peut pas nous... J'ai une question. Hein. C'est simplement, pour une info, tout à l'heure, on va rapporter le début de cet après-midi. Au lieu de 14h, peut-être 14h20. Simplement, je vous dis une chose, hein, par rapport à la question posée par ce jeune monsieur. J'aimerais bien organiser ce genre de colloque en Chine. Même les gens qui comptent pour ça, c'est d'autres questions. Est-ce que vous pensez que c'est possible ou pas ? C'est tout simple. Voilà, c'est ma question. OK ? Bon, on s'arrête là.